Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'un double meurtrier qui s'appelait Didier Talinon. Il a tué deux fois deux jeunes femmes et tenté d'en tuer une troisième. Et après son premier meurtre, il a bien cru qu'il avait signé le crime parfait. Mais il s'est fait coincer 10 ans plus tard en tuant une deuxième fois. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel à maître Noël Gentil du barreau des Sables d'Olonne, avocat de la partie civile. Interview disponible dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Mathieu Fret.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Les gens me demandent souvent, le crime parfait, est-ce que ça existe? Je comprends qu'ils veulent une recette, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en général, je leur réponds qu'il n'y a pas de recette. Et que souvent, c'est le fruit du hasard. Des gendarmes ou des flics un peu mous du genou, un procureur mal inspiré, un nul peut-être. Ça existe. On aurait pu arrêter l'assassin. On est passé à côté. Et toujours, je leur parle de cette histoire de fou. Et cette histoire, elle commence comme ça. On est en août 1989 à Ulm, dans le sud de la Vendée. Et le 7 août, Catherine Charuot, 23 ans, qui vit là depuis 4 mois avec son copain Didier, disparaît. Elle prend son passeport, son chéquier et sa collection de peluches et elle met les voiles. C'est le copain Didier qui prévient les parents et les amis. On s'est engueulé et puis elle est partie comme ça, quoi, un matin. Hein. Et depuis, j'ai pas de nouvelles, quoi. Ah, je sais ce que vous pensez d'entrée. À force de m'écouter raconter des affaires jour après jour, vous vous dites, c'est lui qui l'a tué. Mais il y a un détail que vous ne connaissez pas et qui explique la mollesse des gendarmes dans cette histoire de disparition. C'est la mère de Catherine qui le révèle. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'elle fait le coup de disparaître comme ça. La dernière fois qu'elle s'est engueulée avec un de ses petits copains, elle a disparu pendant des mois, sans donner aucune nouvelle. Et c'est là que le crime devient parfait. Elle l'a fait une fois, elle a recommencé, voilà tout. Sans compter, ça les gendarmes le disent au début de chaque affaire de disparition, qu'un majeur a parfaitement le droit de changer de vie. Et donc tout le monde se résout à cette disparition, les parents, les amis et le petit copain Didier. Et puis les années passant, les parents se disent, tout de même, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas donné de nouvelles. Qu'elle n'ait pas appelé son petit copain Didier, d'accord. Ils s'engueulaient tout le temps. Mais eux, les parents, elle n'était pas fâchée avec eux. Alors en octobre 1994, ils vont voir un avocat, Maître Gentil. Au début, on a accepté l'idée qu'elle voulait changer de vie, que voulez-vous. Mais on s'est dit, elle finira par nous appeler. Et puis les mois ont passé, et puis les années, et elle n'a jamais appelé. Et là, on s'est dit, il y a un problème, quoi. Alors on a harcelé les gendarmes, les journalistes et tout ça, mais ça n'a intéressé personne. Et voilà, quoi, ça fait 5 ans. Et on aimerait bien obtenir que l'enquête soit relancée, quoi. Je vous comprends, messieurs, dames. Écoutez, je vais saisir le procureur de la République en vue d'obtenir l'ouverture d'une enquête préliminaire. On verra ce que ça donne. Et ça n'est pas du tout vain. Le procureur charge les gendarmes d'une enquête. Il retourne voir notamment le copain Didier qui, depuis, a refait sa vie. Je pense tous les jours à elle. Tous les jours. Il y a un truc quand même que je comprends pas. C'est qu'elle appelle pas ses parents. Comme si, en me plaquant, elle les avait plaqués, quoi. Eux aussi. C'est pas normal, ça. Mais tout ça n'ouvre aucune piste. Et donc, le dossier est classé sans suite. Le crime parfait. Car je vous le dis, Catherine Charuot a été assassinée. 10 ans plus tard, Un matin de juillet 1999, sur la nationale 171, entre Nantes et Rennes, à la hauteur de Châteaubriant, un cycliste renifle une drôle d'odeur. Il s'arrête, il s'approche du fossé, il entend d'abord des mouches, et il découvre un cadavre en putréfaction, une puanteur insoutenable. Il prévient les gendarmes. Bonjour, suivez-moi, c'est par ici. C'est le cadavre d'une femme, jeune, dans les 20 ans. Elle a le crâne fracassé et le visage tuméfié. T'as vu le pantalon et le soutien-gorge ? Le pantalon est légèrement baissé et le soutien-gorge est sous les seins. Signe que la jeune femme a sans doute été violée ou au moins tripotée. Il lui manque aussi une chaussure. À part ça, elle a une montre au poignet et un porte-monnaie dans sa poche, mais rien qui permette de l'identifier. Cela dit, les gendarmes ne mettent pas longtemps à lui coller un nom. Bon, il y a fort à parier qu'il s'agisse de Carole Le Yondre, Yondre, une élève infirmière de 20 ans, elle a disparu il y a 9 jours à Châteaubriant. Et c'est bien elle, Carole Le Yondre. Ses parents l'identifient non pas à son visage, elle est méconnaissable. Il l'identifie grâce à la montre et au porte-monnaie. Elle a disparu il y a 9 jours après une soirée dans un bar, la Louisiane. Le patron du bar dit qu'elle est partie seule à 3 heures du matin. Dans Ouest-France, le lendemain, les gendarmes lancent un appel à témoins. Et ils reçoivent l'appel d'une femme qui, le soir de la disparition de Carole, a vu quelque chose de très intéressant.
Ben, j'ai vu un drôle de bonhomme la nuit de la disparition en rentrant chez moi.
D'accord, madame, d'accord. Vous pourriez passer à la gendarmerie pour qu'on recueille votre témoignage.
Et cette dame livre des informations qui vont s'avérer déterminantes.
Ben, ce soir-là, je suis rentré chez moi tard, genre 4 heures du matin.
Et alors sur la route, juste avant d'arriver à la maison, j'ai vu une voiture avec un homme qui était debout à côté. À 4 heures du mat, je me demandais ce qu'il faisait là.
Et vous lui avez parlé ?
Non, je ne me suis pas arrêté, mais je l'ai vu remonter dans sa voiture et il m'a fait un petit signe de la main quand je suis passé à sa hauteur.
Cet homme, vous pouvez le décrire ?
Oui, jeune, blanc, coiffé en brosse.
Et la voiture ?
Alors la voiture, c'est une grosse voiture rouge sombre. Avec des pare-soleils sur les vitres. C'était un break. Genre Renault Nevada, vous voyez ?
Autre chose ?
Oui. Le lendemain, je suis allé jeter un coup d'œil à l'endroit où il s'était arrêté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai appelé. Parce que pile à l'endroit où il s'est arrêté, il y avait un sac plastique qui était plein de sang. Et autour, les herbes étaient couchées, comme si on avait mis quelque chose. Et qu'après, on l'avait enlevé.
Cette dame a possiblement vu le tueur cette nuit-là.
Et la piste à suivre, c'est la voiture.
Un break Nevada rouge foncé, peut-être Bordeaux. Et justement, il y en a un garé devant le Louisiana, figurez-vous. Ce bistrot où la jeune Carole a été vue pour la dernière fois la nuit du crime. Les gendarmes se mettent en plan.
Attention, il y a un type qui s'approche de la voiture. Il l'ouvre. Oh putain, il est en train de la nettoyer, il est en train d'effacer des traces, qu'est-ce qu'on fait ?
Vous intervenez immédiatement.
Badaboum, le type est interpellé en 2 secondes.
Vous appelez comment, monsieur ?
Moi ?
Didier Talino. Je suis le patron du bar en France, là, le Louisiana.
Et vous faites quoi, là, monsieur ?
Je nettoie ma voiture, quoi, c'est pas interdit.
Et là, un gendarme passe une tête dans la voiture.
Ah ben dis donc, ça sent la mort, là-dedans. On a essayé de mettre du parfum, mais moi je dis que ça sent la barbaque pourrie.
Les techniciens de la scientifique débarquent. Il y a du sang sur la moquette à l'arrière. Vous avez noté que le gars se prénomme Didier, comme le petit copain de Catherine Charouot disparu il y a 10 ans. Je dis ça, je dis rien. Alors, ce Didier Talino, qu'est-ce qu'il a à dire sur Carole Le Yondre ?
Elle a passé la soirée au bar.
Et au moment où j'allais fermer, elle m'a proposé de m'aider à faire la vaisselle. Laver le verre, quoi. Elle l'a fait, gentiment, et... Bah, après, elle est partie. Seule ? Ouais, seule.
Sauf que depuis, on a trouvé du sang dans sa voiture. Et qu'un témoin l'a vu à 4h du matin sur le bord de la route. Les gendarmes le lui rappellent. Alors, il est coincé et il livre une deuxième version.
Bon, en fait, à la fermeture, bah, il ne reste plus que cette femme-là. Et Karim, un habitué. À un moment, bon, j'ai dû descendre au sous-sol. Et j'aurais pas dû parce que j'ai entendu du bruit. Quand je suis remonté, bah, la fille, elle était allongée par terre. Et elle était morte. Moi, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Une connerie de Karim, j'imagine. Je me suis dit, si j'appelle la police, autant fermer mon bar. Hein. Alors j'ai emballé le corps de la jeune femme et bah, avec Karim, on l'a mis dans la voiture. Lui, bah, il est allé s'en débarrasser pendant que moi, je nettoyais les traces dans le bar. Quoi. Voilà. J'aurais pas dû faire comme ça. Mais c'est Karim qui l'a tué.
Et là, les gendarmes se disent que peut-être il ne ment pas parce que ce Karim, il sort tout juste de prison. Sauf que le gars a tellement picolé ce soir-là qu'il dit ne se souvenir de rien. Les gendarmes le gardent à l'œil et ils en reviennent à Talino, qui a manifestement compris qu'il était coincé par la découverte du sang dans sa voiture et qui sert une troisième version, sans doute plus près de la réalité.
Bah, j'étais tout à un groupe ce soir-là. Et quand j'ai fermé, je leur ai dit en rigolant « Vous n'allez pas partir sans faire les verres, quoi. » Je disais ça comme ça. Et elle, ben, elle m'a pris au mot. Elle est restée. Aurait mieux valu qu'elle s'en aille. J'aurais pas fait cette connerie, quoi. J'étais attiré pour cette fille, en fait. Alors j'ai voulu l'embrasser. Mais elle a pas voulu. On lavait les verres ensemble derrière le bar. J'ai encore essayé de l'embrasser. Et là, elle a commencé à s'énerver. Je sais pas, quelque chose a explosé en moi. J'ai attrapé une queue de billard. Je l'ai frappée. Et là, elle est tombée. Je me suis aperçu que... Elle respirait plus, quoi. J'ai paniqué. Et je l'ai traînée jusqu'à la cave.
Elle avait le soutien-gorge relevé. Et le pantalon baissé.
Pourquoi ? Bah, parce que dans la cave, j'ai eu envie de voir son corps. Alors, j'ai relevé son soutien-gorge. J'ai commencé à baisser son pantalon. Mais là, tout d'un coup, elle s'est réveillée. Elle a commencé à bouger. Et là, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris un fût de bière, je l'ai soulevé et je lui ai fracassé la tête. C'était l'horreur, quoi. Je regrette de l'avoir tué, cette femme.
Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ?
Ben, je lui ai enroulé le corps dans une bâche. Et je l'ai caché derrière les casiers à bouteilles au fond de la cave. Après, j'ai pas dormi de la semaine, ou très mal. J'arrêtais pas d'y penser. Mais bon, il fallait que je fasse mon travail, quoi, normal.
Le cadavre est donc resté une semaine à la cave. Forcément, ça a dû sentir. Alors un soir, il l'a chargé dans son break. Il s'est engagé au hasard sur un chemin privé. Et il a jeté le corps dans un fossé.
Là, il y a une voiture qui est arrivée. Et la femme qui conduisait m'a vu. Du coup, ben, moi, j'ai repris le corps, je l'ai remis dans la voiture. Et je suis allé le jeter plus loin, quoi.
Mais... Il a oublié sur place le sac plastique plein de sang qui entourait la tête. Ce qui a amené le témoin à alerter les gendarmes. Voilà, il a avoué. Et on trouve du sang dans la cave et le trousseau de clés de Carole et la chaussure qui manquait caché dans un faux plafond. Le lendemain, la tronche de Talino est en grand dans le journal Ouest-France. Et ça fait tilt dans la tête d'un gendarme de Vendée. Bon sang, mais c'est bien sûr. Talino, Didier Talino, c'est le type dont la copine a disparu du jour au lendemain à Ulm il y a 10 ans. Catherine Charot. Le gendarme prévient sa hiérarchie. Et au cours de la perquisition qui suit l'arrestation du zigoto, dans un placard, on trouve les peluches de Catherine Charot. Les peluches qu'elle était censée avoir emportées il y a 10 ans.
Bon, et maintenant, Talino, si on parlait de votre copine Catherine, disparue il y a 10 ans. Pour être honnête, on commence à envisager sérieusement que vous l'avez tuée, elle aussi. Hein.
Moi, c'est n'importe quoi. Elle est partie, je vous dis, du jour au lendemain.
Je ne vous crois pas, Talino. Et je vous demande, sérieusement, de penser 2 secondes à ses parents, que vous connaissez. Ça fait 10 ans qu'ils l'attendent, monsieur. Ils ont le droit de savoir, non?
Et là, Didier Talino se tortille les mains. Son regard se mouille.
Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, vers 1h du matin, Catherine, elle était hyper remontée, quoi. Elle avait bouclé ses valises. Et elle était prête à partir.
Mais pourquoi est-ce qu'elle était remontée?
Elle me disait comme quoi je la trompais. C'était pas vrai. Alors on s'est disputé. Je lui ai donné une gifle, ça je le reconnais. Elle a basculé. Sa tête a cogné le bord de l'évier. Mais je vous assure, je voulais pas lui faire du mal. Sa tête saignait, c'était l'horreur. Je me suis baissé pour écouter son cœur. Il battait plus, quoi.
Et où est le corps, Talino?
Il est chez moi, dans le potager. À 2 mètres du mur de la cuisine, je dirais.
Alors, le juge ordonne qu'on creuse. Et à environ 50 cm de profondeur, on retrouve un squelette. Un squelette enroulé dans une couverture saucissonnée de cordelettes. Et dessus, d'étranges petits flacons de parfum vides.
Talino! Talino, approchez-vous. C'est quoi ça, ces flacons là, Givenchy, Guerlain? À quoi ça sert?
Ouais, c'était pour masquer l'odeur de cadavre au chien, quoi. C'était pas profond, quoi. J'avais peur qu'ils viennent creuser, quoi.
Cette histoire de gifle qui fait tomber Catherine, dont la tête heurte le lavabo, honnêtement, personne n'y croit. La mort de Carole 10 ans plus tard, le fût de bière avec lequel il lui a fracassé la tête, ça ne peut pas être un accident. Le type est violent. Il est intrinsèquement violent. Et on se demande d'ailleurs d'où ça lui vient. Les psys qui viennent l'examiner décrivent un homme normal, qui n'a aucune pathologie psychiatrique et aucune perversité. Rien. On se renseigne là où il a travaillé. Avant d'avoir un bar, il était cuisinier. Aucun problème, aucun passif. Alors on cherche dans son histoire familiale et on trouve un père chauffeur routier, souvent absent, mais sans reproche. Et une mère très autoritaire qui jouait du martinet.
Ben, ma mère, elle m'angoissait tout le temps hein, quand j'étais gosse.
Il s'est mis à casser des chaises et des assiettes quand il a eu 10 ans. Et à 14 ans, il a mis la maison de ses parents à sac. Mais pourquoi? Eh bien, on ne sait pas. Le martinet n'est pas une explication valable. Talino a tué 2 femmes. Et s'il en avait tué d'autres? Les gendarmes reconstituent son parcours depuis la disparition de Catherine Charuot en 1989. Et ils tombent sur une 3e femme. Mais elle n'est pas morte. Elle l'a juste échappé belle. Ça s'est passé en 1994, pile au moment où les parents de Catherine Charuot ont commencé à secouer le procureur pour qu'il rouvre une enquête. Il a senti le vent tourner Et il a décidé d'aller s'installer en Serbie, parce qu'en Serbie, à l'époque, on n'extrade pas les Français. Et sur la route, il s'est arrêté à Düsseldorf, en Allemagne, pour rendre visite à une de ses ex, Christine Richter. Et voilà ce que cette fille raconte.
Didier, il m'a appelé en me disant que sa voiture était cassée et qu'il voulait dormir chez moi, quoi. Alors j'ai dit oui, mais je lui ai dit juste de dormir. Et puis le soir, ben, je faisais la vaisselle. Il est arrivé par derrière et bam, il m'a assommé. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j'ai pas compris, moi, ce qui s'était passé. Il m'a dit, il y a une bouteille qui est tombée de l'étagère. Bon, en attendant, moi, je pissais le sang. J'avais la tête qui tournait. Je lui ai demandé d'appeler un médecin. Mais il me dit, non, tout va bien. Je vais aller à la pharmacie t'acheter des médicaments. Et il ajoute, j'ai pas d'argent. Alors, je lui ai donné ma carte et le code. Et lui, ben, plutôt que d'aller à la pharmacie, ben, il est allé au distributeur tirer le maximum d'argent. Et il est revenu en me disant, la carte ne marchait pas. Donne-moi une autre carte. J'en ai donné une autre avec le code. Et il a fait pareil, quoi. Mais là, il n'est pas revenu. Heureusement, une amie m'a amené à l'hôpital.
Talino est interrogé là-dessus. Et il avoue qu'il lui a donné deux coups de rouleau à pâtisserie en marbre sur la tête. Ça se confirme. Ce Talino est une brute. Pour l'ensemble de son œuvre, Didier Talino est jugé en deux fois. Une première fois en octobre 2001 à La Roche-sur-Yon, pour le meurtre de Catherine Chariot en 89 et la tentative de meurtre sur Christine Richter en 94. Concernant la mort de Catherine, il joue toujours l'homme qui s'est laissé dépasser.
Elle m'a dit qu'elle voulait me quitter. Ça m'a fait comme, je dirais, une flèche dans le cœur. Alors je lui ai donné une gifle, sans doute trop forte. Et la suite, je sais pas, j'ai paniqué, j'étais perdu. J'étais perdu.
Si vous étiez perdu, monsieur Talino, pourquoi n'avez-vous pas appelé le SAMU ou la police? Bonne question de l'avocat général, qui semble penser d'ailleurs que le meurtre de Catherine Chariot était prémédité. Christine Richter, maintenant. Les coups de rouleau à pâtisserie en marbre sur la tête. Elle n'est pas là. L'avocat de Talino voudrait convaincre les jurés que ça n'est pas une tentative de meurtre, mais que c'est un vol avec violence. Auquel cas, ben, ça serait prescrit. Faut pas rêver, maître. Ça passerait s'il n'avait pas tué les deux autres. Après 3 jours de débat, l'avocat général requiert la peine maximale pour un meurtre, 30 ans de réclusion criminelle. Et il demande une peine de sûreté de 20 ans. Et c'est ce que prend Talino. 30 ans plus 20 ans de sûreté. Et il fait appel pour rien. Même peine. Un an plus tard, en décembre 2002, Talino est jugé à Nantes pour le meurtre de Carole Leyon. Et sur ce dossier, il a encore changé de version.
Je dis pas que je l'ai pas tué. Mais franchement, je me souviens de rien. Je me suis réveillé en pleine nuit dans la cave avec le cadavre à côté. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un m'a drogué pour me faire porter le chapeau. Je sais pas.
Personne ne peut croire à cette version. Sauf les psychiatres.
Il existe des cas fréquents de ce qu'on appelle dans notre jargon une amnésie salvatrice. C'est-à-dire que, horrifiée par ce qu'elle a fait, la personne refuse la responsabilité des actes dont on l'accuse et en oublie les scènes les plus flagrantes.
Mais après 3 jours de débat, comme au premier procès, Didier Talino est condamné à 30 ans de prison assorti de 20 années de sûreté. Et il ne fait pas appel. Mais cette histoire n'est pas encore fini. Didier Talino a été condamné 2 fois à 30 ans de réclusion criminelle assorti de 20 années de sûreté. Il a été arrêté en 1999. Il est en prison depuis, 99 plus 20 ans de sûreté. Au mieux, il est censé sortir en 2019. Eh bien, vous n'allez pas le croire, il est libéré en 2004. Après 5 années de prison seulement. Mon client est atteint d'un cancer de la plèvre. J'ai des certificats de ses médecins ici. Donc je demande l'application de la loi Kouchner de 2002 qui préconise de libérer tout prisonnier atteint d'une maladie incurable et dont les jours sont comptés. C'est la loi. Deux médecins experts ont conclu que son pronostic vital était engagé et qu'il lui restait au maximum 1 an à vivre. C'est la loi, et donc en décembre 2004, eh bien Talino quitte la prison de Fresnes et il va s'installer chez ses parents près des Sables d'Olonne. C'est la loi, mais autant vous dire que pour la famille de Carole et celle de Catherine, c'est insupportable. D'autant plus que des journalistes sont allés le filmer dans le jardin de la maison paternelle. Eh ben, il n'a pas l'air si mal que ça. Il est capable de monter sur un escabeau. Et on l'a vu aussi conduire seul de grosses bagnoles. Alors conscient que l'opinion a du mal à encaisser cette libération, le garde des Sceaux de droite, Dominique Perben, demande 2 contre-expertises. Verdict, Didier Talino est en rémission. Il n'est donc plus du tout question qu'il passe de vie à trépas. Et donc après 9 mois de liberté, retour derrière les barreaux de la prison de Fresnes, où il meurt, 1 an plus tard, à l'âge de 41 ans, des suites d'un cancer de la plèvre. Depuis, la loi Kouchner a été modifiée, et seuls peuvent sortir les détenus malades qui ne présentent aucun risque de récidive.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.